Et dans Jean chapitre 6, à partir du verset 22, on poursuit dans nos études dans l'évangile de Jean, petit à petit. Voilà la suite de ce qui s'est passé. On a vu la multiplication des pains, et puis Jésus qui marche sur la mer. Et maintenant, on lit la suite. Et pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever. Donc Jean chapitre 6, les versets 22 à 40. Voici la parole de Dieu. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle, quel signe fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous te croyions. Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé dans la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il lui dirait, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour cette parole qui est ta parole et nous te prions que tu la rendes efficace pour notre salut ce matin, que ce soit pour donner la vie à quelqu'un ici pour la première fois ou pour nous maintenir et nous soutenir dans la vie éternelle que tu nous as donnée. Et pour cela, nous te demandons donc de nous aider à écouter cette parole de manière prête et assidue et dans la prière, que l'on puisse la recevoir avec de la foi et de l'amour, de la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. Au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez reprendre place. Dans ce texte et dans le reste du discours que nous trouvons dans Jean chapitre 6, Jean prend ce que nous avons appris à travers les deux épisodes précédents, et il utilise ces leçons comme des instruments pour nous opérer à cœur ouvert. Nous savons, parce qu'il a annoncé, il annonce à la fin de son livre, que son but, en écrivant ce livre, et notamment en nous présentant la série de signes, les 7 signes qu'il a choisis, c'est que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Et même si on n'a pas encore lu tout le livre, et on n'avait pas lu cette déclaration de la volonté de Jean, on voit quand même ici dans ce passage que cela représente bien la volonté de Dieu, n'est-ce pas ? On le voit clairement au verset 40. Et c'est comme si Jean veut que l'on s'y mette maintenant. Il a présenté 4 sur les 7 signes qu'il a choisis. Le 4e est donc le signe central dans la série, c'était la multiplication des pains au début du chapitre. Là, on a appris que Jésus est l'hôte divin du festin éternel. Et puis, il a présenté ce miracle incroyable hors série, qui ne faisait pas partie des signes, où Jésus a marché sur la mer. Et on a appris que Jésus est le Dieu souverain qui vient aux côtés de son peuple dans les orages ténébreux. Et même s'il lui reste beaucoup de choses à nous montrer, Jean veut quand même voir où on en est. Vous voyez, vous comprenez? Et c'est pour cela qu'on en apprend beaucoup sur on doit beaucoup apprendre ici sur le vrai sens de la foi. Et en même temps, c'est ici qu'on doit apprendre que Jésus n'est pas uniquement celui qui accomplira notre salut et qui nous donnera la vie éternelle, mais c'est lui, notre vie. Nous avons besoin de lui en tant que sauveur, mais nous avons aussi besoin de lui en tant que Dieu. Mais voici encore une dimension essentielle à saisir. Nous avons besoin de lui en tant que notre salut même. Mais la chirurgie à cœur ouvert est forcément très invasive et même pénible. Et c'est le cas ici. Puisque pour apprendre ces leçons sur la foi et sur Jésus, il faut le faire dans un contexte d'incrédulité. Et si c'est pénible, parce qu'il faut que l'on se pose la question, en quoi cette foule me sert-elle de miroir ? En quoi cette foule me sert-elle de miroir ? Ben, regardons ce qu'ils font alors. On voit qu'un premier problème consiste à ce que la foule remplace ce qui est éternel par ce qui est temporaire. On voit ça au verset 22 à 29. Ils remplaçaient ce qui est éternel par ce qui est temporaire. Une fois qu'ils ont passé du temps à chercher Jésus, ils trouvent à Capernaum, et on apprendra plus tard dans le chapitre qu'il était dans un synagogue en train d'enseigner. Mais plutôt bizarre qu'il n'avait pas de barque pour traverser la mer. Comment ça se fait? Donc il pose la question, bien sûr, au verset 25, « Quand es-tu venu ici ?» Et comme il fait souvent, il ne répond pas du tout à la question. Imaginez s'il avait essayé de répondre et expliquer ce qu'il a fait. Mais non, il a des choses bien plus importantes à dire à cette foule. Parce que Jésus percevait bien leur motivation. Nous, on ne peut pas faire ça, mais Jésus arrivait à faire ça. Il n'était pas venu pour déclarer leur foi en Jésus. Il n'était pas venu pour dire « Seigneur, nous avons compris ce que tu nous as montré, ce que tu nous as enseigné. Tu es notre sauveur, notre bon berger, notre plus grand prophète, l'hôte divin du festin éternel. » Non. Ils aimaient juste l'idée d'avoir à manger gratuitement. Ils trouvaient que Jésus était utile. Si l'on suivait Jésus, la vie serait plus facile, non ? J'aurais quelqu'un qui me donne à manger, comme ça. Qui me guérit, qui fait tout ce qu'il faut. On peut imaginer quand ils sont rentrés chez eux le soir, ils racontent à leur famille ce qu'ils ont vu la veille. Et ils disent, écoute ce que le rabbi qui passe par la ville a fait aujourd'hui. Il a nourri toute la foule des milliers de personnes, juste avec 5 pains et 2 poissons. On dit qu'il a fait plein d'autres miracles aussi. Et une épouse ou un enfant dit « Mais c'est magnifique ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça doit signifier quelque chose, non ? Il doit être un prophète ou même le Messie peut-être, non ?» Il dit « Je sais pas, mais c'était super bon et gratuit en plus. » Ils avaient remplacé ce qui est éternel par ce qui est temporaire. Mais on ne voit ça jamais de nos jours, bien sûr. Et si. On a des cas extrêmes, bien sûr. On a ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Venez à Jésus et vous serez guéri, vous serez riche, vous aurez la vie réussie. Mais on a plein de formes différentes. En gros, tout ce qui dit « venez à Jésus pour recevoir autre chose que Jésus », venez utiliser Jésus pour recevoir votre vrai désir. Et l'exhortation de Jésus au verset 27, c'est « travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera ». Or, il n'est pas en train de dire « rentrez chez vous, écrivez vos lettres de démission tout de suite pour vos employeurs ». Revenez pour me suivre et vivre un peu comme des moines. Loin de là, Jésus lui-même a fait un métier pendant très longtemps pour de l'argent, il était charpentier. Mais il a une grande différence entre travailler pour gagner sa vie et pourvoir à ses besoins avec de la sagesse et vivre pour l'argent, vivre pour les vacances, vivre pour la culture, vivre pour les expériences intéressantes. Centrer son existence sur ce qui ne durera pas. Être motivé par des choses terrestres. Être motivé par tout ce qui est vanité. Le père d'église, Jean Bouchetor, le résume bien en disant que ça ne veut pas dire ne travaillez pas, mais ne soyez pas attachés ou cloués aux choses de cette vie. Il y a quelques années, pendant mes études aux États-Unis, on a eu une soirée film pour regarder le film Silence de Martin Scorsese, basé sur le roman de l'écrivain japonais Shusaku Endo. Et après le film, il y avait un entretien avec un invité qui a été consultant pour le film. Et le film Silence donne une histoire de missionnaire catholique jésuite au Japon au XVIIe siècle. Deux jeunes missionnaires portugais, basés en Chine, vont au Japon pour chercher un collègue qui était quelque part leur héros, après avoir reçu une lettre qui prétend au moins qu'après toute la torture qu'il a soufferte, ayant dû regarder la torture que souffraient tous ses convertis, ce collègue, ce missionnaire, aurait renoncé à sa foi. Impossible à croire. Donc il faut aller le chercher et le sauver. Pour ces deux jeunes missionnaires. Et c'est un voyage très difficile. Et à un moment, un des missionnaires se trouve devant Inoue, c'est le magistrat de Nagasaki, qui a une réputation terrifiante en termes de son traitement des gens et surtout des chrétiens. Et Inoue dit à ce missionnaire, et c'est un thème qui revient dans le film et apparemment dans le livre aussi, je n'ai pas encore lu, que le Japon ressemble à un marais. Un marais qui étouffe tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui veut grandir, pousser, s'enraciner dans la terre japonaise. Non, c'est un marais qui va étouffer tout ça. Et donc le christianisme ne pourrait jamais prendre racine dans ce marais. Et après le film, on avait un entretien avec l'invité qui a aidé avec ce projet de film. Il s'appelle Makoto Fujimura. C'est un artiste chrétien évangélique japonais qui habite maintenant à New York, je pense. Et pendant l'entretien, on lui a demandé « Comment répondriez-vous à ce propos que le christianisme ne pourrait jamais s'enraciner dans le marais qu'est le Japon ?» Et sa réponse, tout simplement, « Arrêtez de cultiver du riz !» Or, il ne parlait pas littéralement, bien sûr. Mais ce qu'il voulait dire par cela, c'était arrêtez d'être si attaché au pays, à tout ce qui est vôtre, à votre culture à vous. Arrêtez d'être entièrement dominé par votre culture et tout ce qui est terrestre et ici. C'était pas arrêter d'être japonais, mais mettez tout ça en perspective. Avoir un niveau approprié d'appréciation pour son pays et sa culture. Mais aussi un regard critique là où il faut. Mais cette foule devant Jésus avait permis à ce que leur petit monde terrestre, temporaire, soit tout pour eux. Et c'était encore pire ici, parce que non seulement ils étaient focalisés sur des choses terrestres, mais ils voulaient utiliser Jésus pour tout cela. Mais Jésus leur montre que la nourriture à chercher, c'est la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué de son sceau. Et quelle est l'œuvre qu'il faut obtenir pour obtenir cette nourriture qui dure? Verset 29. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le père d'Église Augustin le résume très bien ici. Pourquoi vous préparez-vous les dents et l'estomac? Croyez et vous avez mangé. Croyez et vous avez mangé. Et au lieu de se reconnaître corrigé par Jésus, la foule y voit une occasion. C'est clair que Jésus commence à faire des grands propos à son propre sujet. Et qui dit grands propos, dit signe. Et qui dit signe, dit à table. Et c'est au verset 30 à 36 que nous voyons dans un deuxième temps qu'ils avaient remplacé la faim pour la convoitise. Ils avaient remplacé la faim pour la convoitise. D'abord au verset 30, ils ont l'audace de demander à Jésus, qui venait de nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes, y compris ces personnes-là, juste la veille, « Quel signe fais-tu donc afin que nous le voyions et que nous te le croyons ?» On ne peut pas dire autre chose que de dire « Mais ce n'est pas possible !» Ils étaient là. Mais on voit ça partout, non? On entend souvent des personnes dans le monde nier le fait que Dieu existe, nier qu'il a suffisamment de preuves de son existence, tout en utilisant la voix et le souffle que Dieu est en train de leur donner. Et d'autres personnes, des croyants, disent « Dieu m'a abandonné ». Il ne m'a rien fait de bien, il ne me montre plus qu'il m'aime. Je ne le sens plus, et c'est très pénible d'avoir ce sentiment. Mais il dit ces choses tout en connaissant l'Évangile, tout en sachant qu'il a donné son Fils pour nous, tout en ayant participé à un culte où on peut recevoir les moyens de la grâce. Et même si l'on ne dit pas ces choses explicitement, même si on n'accuse pas Dieu directement, on peut quand même vivre comme si Dieu ne nous a pas bénis, n'est-ce pas? Très facilement, on vit comme si on a tout oublié. Quel signe fais-tu donc? Mais en fait, il voit l'occasion d'oser aller un cran plus loin encore. Ce que Jésus avait fait la veille était bien impressionnant, sans doute. Mais là, il a pris des pains d'un garçon, des pains terrestres, pour les multiplier, tout simplement. Multiplier des pains, tout simplement, juste comme ça. C'était tout. Tandis que Moïse a pu donner du pain du ciel. Donc si ce Jésus était quelqu'un d'important, forcément, il pourra faire au moins pareil, non? Et ils utilisent ces paroles de la prière de Néhémie, dans Néhémie 9,15, pour rappeler à Jésus que Moïse a fait tomber de la manne. Mais jamais la Bible ne dit que Moïse a donné la manne. La Bible est toujours très claire, c'est Dieu qui a donné la manne. Même le verset qu'il cite, c'est une prière vers Dieu, « Tu leur as donné à manger ». Jésus les corrige alors au verset 32, il explique « S'il y a du pain qui vient du ciel, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui l'envoie ». Verset 32, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et c'est super, non? Là, ils auraient peut-être l'occasion de manger de la manne et qui sait, peut-être, ils pourraient manger de la manne tous les jours, gratuitement, c'est magnifique. Verset 34, ils lui disent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Mais ils n'ont rien compris. Ils ont remplacé la faim par la convoitise. C'est-à-dire, ils ont remplacé le désir, le besoin qui est bon et nécessaire par une attitude égocentrique où l'on ne fait que de vouloir, vouloir, vouloir. C'est l'attitude qu'il voit comme Ève dans le jardin. Non pas toutes les bonnes choses reçues, mais tout ce qu'on n'a pas encore. Et je veux ça. Ils sont aveuglés par leurs perspectives et leurs désirs. Non seulement ils ont la mauvaise perspective en remplaçant ce qui est éternel par ce qui est terrestre, mais ils ont permis à ce que cela soit toute leur motivation et qu'ils maîtrisent leur cœur. Donc, donne-nous ce pain céleste, Jésus. Ça a l'air génial. Vas-y, fais descendre le pain. On voit sa réponse au verset 35 où il explique « Mais c'est moi le pain de la vie. Si vous ne voulez plus avoir faim, c'est à moi qu'il faut venir. Si vous ne voulez plus avoir soif, croyez en moi. » Voici une des fameuses phrases « Je suis » dans l'évangile de Jean qui fait écho au langage dans Exode lorsque Dieu prononce son nom « Je suis ». Il y en a certaines dites absolues, c'est-à-dire où Jésus dit juste « je suis » tout court. On a vu par exemple lorsqu'il marchait sur la mer et dans sa conversation avec la femme samaritaine au chapitre 4. Et ici, c'est la première phrase « je suis X »,« je suis quelque chose »,« je suis le pain de la vie ». Il n'est pas juste question de chercher le prochain prophète qui peut faire tomber de la manne du ciel. C'est un peu le même problème qu'au chapitre 5, où il a dû dire aux leaders juifs, « Vous lisez les Écritures, mais ce sont eux qui rendent témoignage à mon sujet. » Et à ces gens-là, vous voyez tout ce que Dieu a révélé au cours de l'histoire, mais vous ne voyez pas son sens. Vous ne voyez pas que la manne n'était pas un signe du pouvoir de Moïse, et même non pas seulement un signe du pouvoir de Dieu de pourvoir aux besoins terrestres, mais plus que ça, c'était un type dont Jésus est l'antitype. C'est un type qui pointait vers Jésus. Non pas comme celui qui donne le pain, mais comme le pain même. Un type qui symbolisait Jésus lui-même qui est venu, descendu dans le monde pour sauver ceux qui viennent à lui. Jésus n'est pas seulement l'hôte divin du festin éternel. C'est lui le festin. Il n'est pas juste notre sauveur, il est notre salut. C'est ici que nous voyons un peu la convergence des deux leçons précédentes. Le signe des multiplications des pains, comme les autres signes, nous montre que Jésus est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne le salut. Mais l'histoire de Jésus qui marche sur la mer nous a montré que ce n'est pas que je dois aller à Jésus pour dire « C'est bon, j'ai compris, donne-moi la chose que tu proposes », comme si le salut serait une autre chose ou un statut que Jésus peut nous donner et puis on se dit au revoir. Non, ce dont j'ai besoin, c'est Jésus-Christ lui-même. La manne était un type non pas d'une nourriture terrestre que pourvoirait un homme un jour, mais de Jésus-Christ lui-même, notre salut, notre vie. Croyez et vous avez mangé. Venez à Jésus et vous n'avez plus faim. Croyez en lui, vous n'avez plus soif. Et pourtant, Jésus connaît cette foule, verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. » Dans un troisième temps alors, Jésus nous appelle à remplacer la mort par la vie. Remplacer la mort par la vie. Versets 37 à 40. La transition entre les versets 36 et 37 est assez étrange, au moins je le trouve. Ils ne croient pas et pourtant il y a ceux qui croient quelque part. Ça ressemble en fait un peu à la transition qu'on voit dans le prologue au premier chapitre. La parole, la lumière est venue aux siens, à sa propre création, et les siens ne l'ont pas reçue. Ça a toujours été comme ça depuis la chute. La création rejette la lumière de Dieu et les promesses de l'Évangile. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, mais je croyais qu'ils n'ont pas reçu, mais ils n'ont pas reçu, mais à ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, Dieu a donné le droit de devenir enfant de Dieu. La foule ne croit pas Jésus, et pourtant Dieu est quand même en train de sauver son peuple. Il y a ceux qui viendront à Jésus parce que c'est pour ça que Jésus a été envoyé. C'est pour ça qu'il est descendu du ciel, lui, le vrai pain de la vie. Et c'est pour ça qu'en tant qu'homme, il obéit à la volonté divine. Il vient pour pouvoir ressusciter les siens le dernier jour, c'est ce qu'il dit. Cela présuppose bien sûr qu'il faudrait traverser la mort pour y arriver et que Jésus doit se livrer pour qu'il puisse être la nourriture spirituelle, celui qui nous donne la vie. Mais c'est aussi lui qui ressuscitera les siens. Parce que voici la volonté du Père. Voici une exposition claire de la mission de Jésus, verset 40. « Que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Vous vous souvenez peut-être qu'après la multiplication des pains, Jésus a dit à ses disciples de ramasser les restes du pain afin que rien ne se perde. Ou littéralement, afin que rien ne périsse. Deux leçons que cette foule aurait dû apprendre là. D'abord, il s'agissait de pain qui pourrait périr. Et donc, ce n'était pas ça le pain qu'il faudrait chercher. Mais puis aussi, dans le ramassage des deux panneaux, des 12 panneaux de pain, comme les 12 tribus d'Israël, la totalité du peuple de Dieu, et surtout les 12 pains placés sur la table dans le sanctuaire du temple, qui représentaient le peuple dans la présence et la lumière de Dieu, ils auraient dû voir que Dieu est en train de ramasser son peuple afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On a ce mot « périr » qui revient dans nos chapitres. Et parfois c'est traduit par « perdre », parfois « périr », mais c'est le même mot. Remplacez la mort par la vie. Venez à celui qui donne le pain de la vie, parce qu'il est lui-même le pain de la vie. Il est celui qui se livre, qui meurt pour qu'il puisse devenir la nourriture spirituelle qui donne la vie. Croyez en lui. Croyez qu'il vous donnera la vie et qu'il vous ressuscitera le dernier jour. Il le fera, je vous promets. En son nom, il le fera. Il a garanti par sa résurrection à lui. Le Père est en train de ramasser son peuple. En faites-vous partie? Et comment savoir si vous en faites partie? Ben, croyez et vous verrez que vous l'êtes. Croyez et vous avez mangé. Venez et vous n'aurez plus faim. Croyez et vous n'aurez jamais soif. Il ne jettera pas dehors ceux qui viennent à lui. Venez donc, vivez en communion éternelle avec lui. C'est ça la vie éternelle. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour notre Seigneur Jésus, notre pain de vie. Nous confessons que nous avons besoin de lui. Non pas seulement quelqu'un qui pourrait nous montrer le chemin, non pas quelqu'un qui pourrait nous donner des bonnes choses, mais celui qui se donne, celui qui se donne à nous en nourriture, par son sacrifice. Seigneur, nous te remercions pour ce pain de la vie et nous prions que tu nous aides à le manger, à le saisir, à recevoir ce salut qu'est Jésus-Christ. Aide-nous à saisir notre Sauveur Jésus-Christ chaque jour par la foi. Merci pour cette promesse que tu ne jetteras jamais dehors ceux qui viennent à toi. Merci parce que tu es en train de ramasser ton peuple, ramasser tes siens, les tiens. Et nous prions que tu nous aides à venir. Donne-nous la force chaque jour de venir à Jésus pour le recevoir, pour le saisir, pour manger, pour croire en lui, pour recevoir la vie. Aide-nous à être un encouragement les uns pour les autres. Ici, que nous soyons ceux qui viennent depuis longtemps ou que nous soyons des nouveaux, aide-nous à être un encouragement les uns pour les autres. Qu'on puisse nous encourager à saisir Jésus-Christ, manger, croire en Jésus, pour ne jamais avoir faim. Et nous prions de ces choses, notre Père, au nom de précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, béni éternellement. Amen.